un village, minuit sonne. Un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Dit-il que je travaille loin des canons, je vis en liberté.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 2 février 2026. Et voici une chronique des libres penseurs de Dordogne, groupe Fred Zeller, qui sera consacrée à la lutte contre le colonialisme, contre les discriminations et contre la répression qui va avec, bien évidemment. Je vais commencer par vous faire part d'un rapport, d'une analyse plus précisément, de notre ami et camarade Christian Echen sur le rapport de la défenseur des droits qui éclaire sur les discriminations fondées sur la religion. Claire Hédon a été nommée rapporteur des droits depuis le 22 juillet 2020 et fait un travail remarquable dans la continuité de ses prédécesseurs qui ont montré leur véritable indépendance vis-à-vis du pouvoir, quel qu'il soit. L'analyse qui est faite dans le rapport 2025 sur ce qu'est réellement la laïcité est lumineuse et correspond en tout point à celle de la libre pensée. Tout ce qui porte le nom de public ne l'est pas forcément juridiquement. La présentation du rapport ci-dessous anéantit complètement les thèses xénophobes, racistes et réactionnaires qui reprochaient à l'Observatoire de la laïcité et encore aujourd'hui contre nos amis de la vigie de la laïcité, de réduire la laïcité à une question juridique de bas étage. Qu'est-ce que la laïcité ? La loi de 1905 prévoit ensuite, en son article 2, le principe de séparation des Églises et de l'État en tant qu'il est un moyen de sauvegarder les libertés de conscience et de culte, rappelé à l'article 1er, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, supprimant ainsi des budgets de l'État et des collectivités territoriales toute dépense relative à l'exercice du culte. La loi de 1905 sort la religion de la chose publique. Il ne faut toutefois pas en déduire, comme il est trop souvent fait, que la laïcité cantonne la religion à la sphère privée. Entre la sphère publique, domaine des services publics et des personnes publiques, et la sphère privée, domaine du domicile et de l'intime, existe en effet un troisième espace d'une nature différente, non soumis au principe de laïcité, l'espace public. L'adjectif public est trompeur, car il semble rattacher cet espace à la sphère publique, alors qu'il désigne en réalité les lieux qui sont accessibles à tous, les voies publiques, rues, trottoirs, places, etc., les lieux ouverts au public, parcs, plages, commerces, restaurants, cinémas, etc., les lieux affectés à un service public, préfectures, mairies, gares, musées, stades, etc., et les transports collectifs. Il est donc faux de déduire de la loi de 1905 une exigence de neutralité de cet espace social. Si le service public est laïque, l'espace public ne l'est pas. La confusion a sans doute été nourrie par l'interdiction du port de la burqa, notamment dans la rue et les lieux ouverts au public, par la loi numéro 2010-1192 du 11 octobre 2010. Cette loi n'a toutefois pas été prise sur le fondement du principe de laïcité, mais pour répondre à un objectif de défense de l'ordre public. La laïcité se présente avant tout comme un principe d'impartialité de l'État à l'égard des croyances, qui interdit au pouvoir public de discriminer les individus en raison de leur appartenance religieuse, garantissant en retour la liberté de chacun de pratiquer librement son culte. Ainsi définie, la laïcité cumule trois éléments indissociables. La liberté religieuse, qui comprend la liberté de conscience et celle de pratiquer ou non une religion. La séparation des Églises et de l'État et la prohibition des discriminations entre les usagers des services publics en raison de leur conviction religieuse ou de leur absence de conviction. À rebours d'une idée communément répandue selon laquelle la laïcité serait un principe hostile à toute expression religieuse. Ce retour à la loi de 1905, plus célèbre que véritablement connue, permet au contraire d'y voir un principe qui à la fois protège la liberté religieuse et garantit la non-discrimination. La laïcité est un principe de liberté. Obligation pour l'État, elle est une garantie pour l'individu dans l'exercice de sa liberté religieuse et dans l'exercice de sa liberté de culte. L'article L100-2 du Code des relations entre le public et l'administration le rappelle clairement. C'est l'administration qui est tenue à l'obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. La neutralité, un devoir limité où laïcité et neutralité sont souvent confondues au point d'être parfois réduites en un seul et même principe. Pourtant, leur signification et champ d'application diffèrent. D'une part, la neutralité recouvre un domaine plus vaste que celui de la laïcité puisqu'elle s'étend au-delà de la sphère religieuse, aux convictions philosophiques et politiques. D'autre part, et à l'inverse, la neutralité n'est qu'une composante de la laïcité. Alors que la neutralité s'applique, en principe, uniquement à l'État, la laïcité se déploie comme un principe juridique d'ensemble, englobant à la fois la neutralité et la garantie de la liberté religieuse des individus et des cultes. Comme le Conseil constitutionnel le rappelle, la neutralité est un corollaire du principe d'égalité, du latin neuter. Le mot « neutre » signifie « ni l'un ni l'autre » et renvoie aussi à celui qui, citation, « s'abstient de prendre parti, de s'engager d'un côté ou de l'autre ». Fin de citation. La neutralité de l'État garantit en ce sens un cadre impartial visant à ne pas favoriser ni défavoriser un individu. Elle accorde à chacun une attention égale, quelles que soient ses convictions religieuses. Incarnant les services publics, les agents publics se trouvent dans un lien étroit avec les pouvoirs publics et pèsent donc sur eux une obligation stricte de neutralité. L'article L121-1 du Code général de la fonction publique précise que découle de ce principe une double obligation pour les agents publics. D'une part, l'agent public est tenu à l'obligation de neutralité. Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s'abstient notamment de manifester ses opinions religieuses. D'autre part, l'agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. Fin de citation. Les agents publics doivent ainsi adopter une apparence et une attitude conformes à la neutralité exigée et ne pas discriminer les usagers en raison, notamment, de leurs convictions religieuses. Les usagers du service public se trouvent, quant à eux, dans un rapport plus distendu au service public, puisqu'ils ne les incarnent pas. C'est la raison pour laquelle les usagers du service public ne sont pas soumis à l'obligation de neutralité religieuse. Ils disposent du droit de manifester leur appartenance et d'exprimer leurs opinions religieuses aussi longtemps que cette manifestation et cette expression ne troublent pas le bon fonctionnement du service public en cause et ne méconnaissent pas l'ordre public en suscitant, par exemple, des violences ou en comportant une dimension excessivement prosélyte. Dans le même sens, les entreprises privées et leurs salariés, dès lors qu'elles n'ont aucun lien avec la réalisation d'un service public, ne sont pas soumises au principe de neutralité. Des chiffres et des faits. Le rapport de Mme Hédon montre l'accroissement tendanciel et permanent des discriminations contre les personnes présupposées musulmanes, avec une disproportion certaine contre les femmes. Les études précisent bien les choses par rapport à la qualification de « musulman ». À partir d'un appel à témoignages réalisé en 2016, le défenseur des droits avait déjà montré que les attitudes défavorables à l'égard des personnes musulmanes apparaissaient davantage comme la manifestation d'un processus d'assignation originaux religieuse qui concerne toutes les religions que d'une intolérance à l'égard de la religion elle-même, ce qui montre bien l'inanité du terme « islamophobie », c'est une note de l'auteur de cette analyse, Christian Echen. Ainsi, par exemple, la haine anti-musulman et la xénophobie apparaissent comme des phénomènes étroitement imbriqués. Par ailleurs, les personnes qui pensent être perçues comme arabes déclarent bien plus souvent que les autres avoir été discriminées au cours des 5 dernières années en raison de leur religion. C'est le cas de 41% d'entre elles, alors qu'elles étaient 35% à les déclarer en 2016, contre 15% de celles perçues comme noires et 3% de celles perçues comme blanches exclusivement. Elles sont également 60% à déclarer avoir été discriminées en raison de leur origine, confirmant la forte imbrication entre les critères origine et religion. En ce sens, dans son premier volume consacré aux relations entre police et population, l'enquête « Accès aux droits 2024 » relève que les personnes perçues comme noires, arabes ou maghrébines ont 4 fois plus de risques d'avoir été contrôlées que le reste de la population et 12 fois plus de risques d'avoir fait l'objet d'un contrôle poussé, fouille, palpation, conduite au poste, injonction à quitter les lieux, que les personnes perçues comme blanches. Fin de citation. La probabilité d'avoir fait l'objet de discrimination fondée sur la religion était en 2016 de 2,1% pour les chrétiens et en 2024 de 4,1%. De même pour les musulmans, l'évolution est passée de 27,2% à 34,3% et pour les autres religions de 15,2% à 19,1%. Les athées sont passés, eux, de 1% à 1,6%, alors qu'ils sont majoritaires dans la société, plus de 51% en 2020, ce qui est normal puisqu'ils subissent des discriminations, et ils en subissent, ce n'est pas du fait de leur religion. Dans le logement, citation, donc c'est la source et enquête aux accès aux droits de 2024, « Parmi les personnes déclarant être musulmanes ou considérées comme telles, ne résidant plus chez leurs parents, 21% sont propriétaires de leur logement, contre 52% des personnes ne se déclarant d'aucune religion. » Un aspect particulier, les femmes musulmanes particulièrement discriminées. Dans le sport, et ce sont des citations donc du rapport. « Par ailleurs, si le port de signes religieux ne concerne pas l'ensemble des croyants et de confessions musulmanes, 20%, contrairement à ce que pourrait laisser penser la focalisation du débat public sur le port du voile, la pratique du sport de signes religieux est fortement genrée. Elle concerne 31% des femmes et seulement 9% des hommes. De l'effet conjugué de ces facteurs ressort une visibilité de la foi particulièrement associée aux femmes musulmanes portant le voile, lesquelles concentrent l'attention publique et politique. » Fin de citation. Au travail, nouvelle citation. Lorsqu'elles occupent un emploi, c'est d'ailleurs plus souvent que les autres dans le secteur privé, sur un poste d'une durée limitée, CDD, contrat saisonnier, contrat d'intérim, etc. Ces contrats précaires valent pour 27% de salariés de confession musulmane, contre 13% parmi ceux de confession chrétienne ou 16% de ceux sans religion. Fin de citation. À la piscine, nouvelle citation. En l'absence de preuves de risque en matière d'hygiène et de sécurité, rien ne permet de démontrer que le port du burkini contreviendrait aux règles d'hygiène et de sécurité. Un refus d'accès à une piscine en raison du port d'un tel vêtement caractérise donc, selon le défenseur des droits, une discrimination intersectionnelle fondée sur la religion et le sexe. La loi séparatiste est discriminatoire par essence. Le rapport se termine en traitant aussi de la loi du 24 juillet 2021 et du constat d'engagement et du contrat d'engagement républicain, le CER, dont les conséquences sont potentiellement discriminatoires. Le défenseur des droits a déjà pu dénoncer la restriction de la liberté d'association que constitue le conditionnement de l'attribution de subventions à la signature de ce contrat et avait souligné que ce contrat n'exigeait pas seulement des associations qu'elles ne commettent pas d'infractions, mais aussi qu'elles s'engagent positivement et explicitement dans leur finalité comme dans leur organisation sur des principes qui sont ceux de la puissance publique. L'institution relevait qu'un tel renversement dénaturait en partie le statut des associations qui ne sont pas des acteurs publics et autorisait un contrôle très poussé de l'État sur les actions des associations. Toutefois, le critère pose de nombreuses questions quant à son application effective. Ne pas remettre en cause, implique-t-il, ne pas critiquer la laïcité, une association, quelle qu'elle soit ou non cultuelle, peut-elle contester certains textes législatifs ou règles existantes justifiées par le principe de laïcité sans risquer de perdre ses financements, accueillir en son sein des personnes portant un signe religieux, est-ce remettre en cause le caractère laïque de la République? Quels sont les faits? Quels faits concrets peuvent conduire au retrait d'une subvention? Quelle est la ligne à ne pas franchir? Dans la pratique, ces ambiguïtés ouvre la voie à des applications différenciées selon les associations et les territoires, faisant peser un risque de discrimination directe et indirecte sur certaines d'entre elles. En l'espèce, un maire avait retiré une autorisation au planning familial d'installer sur la place de l'hôtel de ville un stand d'information et d'animation sur le thème de l'égalité femmes-hommes, au motif que la présence d'une femme voilée sur l'affiche réalisée par une bénévole de l'association traduisait un manquement au contrat d'engagement républicain en promouvant implicitement le communautarisme. Le juge des référés a rejeté cette analyse. Ce visuel reflète, au contraire, la volonté de l'association dans un souci d'émancipation, ainsi que celle-ci le souligne, de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes indifféremment auprès de l'ensemble des femmes, y compris celles portant le voile, et nonobstant donc les convictions que ce port, qui par ailleurs n'est pas prohibé dans l'espace public, pourrait refléter de leur part. Les faits à l'origine de ces affaires montrent à quel point une laïcité mal comprise et une interprétation extensive de la loi de 2021 peuvent facilement porter atteinte à la liberté d'association. Et pour conclure, Christian Echen indique, donc pour terminer son analyse, « Ce rapport conforte la volonté et l'exigence des associations authentiquement laïques de voir abroger la loi liberticide dite séparatiste du 24 août 2021, qui entend contrôler les consciences, et celle dite de sécurité globale du 25 mai 2021, qui entend contrôler les individus. Contrôler les corps et les consciences, telle est l'essence même du cléricalisme, qu'il soit de l'Église catholique ou du pouvoir macroniste. » Voilà. Fin donc de cette analyse du rapport de la Défenseur des droits. Et je trouve que cette analyse est tout à fait intéressante et tout à fait pertinente. Voilà. Alors, je voudrais maintenant signaler une tribune qui a été signée par de nombreuses personnes, qui a été publiée dans Politis, sur la présomption de légitime défense des policiers. C'est donc la fameuse loi qui institue cette présomption d'usage légitime de l'arme par les policiers. Ce serait un changement majeur dans l'appréhension des critères qui protègent le citoyen du risque réel. Donc, la proposition de loi visant à reconnaître une présomption pour les forces de l'ordre, etc., hein, donc ça date du 23 janvier 2026. Première publication. Reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces dans l'exercice de leurs fonctions, telle était l'ambition poursuivie par la loi devant être discutée à l'Assemblée nationale le jeudi 22 janvier. Proposition de loi a d'abord été rejetée par la commission des lois. Des amendements ont ensuite été proposés pour introduire, notamment à l'article 1 du Code et de la sécurité intérieure, une présomption de légitime défense, donc d'usage d'une arme par les policiers. Si l'amendement soutient une présomption de légitime défense, mais une présomption d'usage. Il ne s'agit là que d'un habillage sémantique. Alors, l'analyse se poursuit sur l'irresponsabilité pénale. Il faut le rappeler, la présomption de légitimité de tir de policier cause objectif d'irresponsabilité pénale. Cela signifie que l'auteur complice ne pourront pas se voir condamné pénalement et que l'indemnitaire est voué au rejet. Cette légitimité préjugée implique un certain nombre de conditions tenant notamment à la nécessité qui ne doit être utilisé qu'en dernier retour et à sa proportionnalité. Alors, vous retrouverez ce texte, hein, on mettra le lien sur le site du groupe Fred Zeller, puisqu'il est assez long, et il est signé par des magistrats, des journalistes, des sociologues, des historiens, etc., des écrivains, beaucoup d'avocats, et donc je ne vous en donne pas la liste, hein, ils sont extrêmement nombreux. Voilà. Ça, c'était une deuxième information. Et puis, je voudrais maintenant en venir, parce que je vais, d'une manière un petit peu, spéciale, vous lire la traduction de la chanson que j'ai retenue pour illustrer musicalement cette chronique. Donc, il s'agit de cette chanson, on l'a entendu parler à la radio, à la télé, dans les différents médias, que Bruce Springsteen vient de sortir, hein, vient de chanter Streets of Minneapolis. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue,
A city aflame fought fire and ice 'neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Oh, Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. The streets of Minneapolis. Trump's federal thugs beat upon his face and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Hold the law, but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chance of ice out now, our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll take our stand for this land. Streets of Minneapolis. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis.
Voici donc la traduction des paroles de cette chanson de Bruce Springsteen, Streets of Minneapolis. À travers le froid et la glace de l'hiver, en descendant l'avenue Nicolet, une ville en flammes a combattu le feu et la glace sous les bottes d'un occupant. L'armée privée du roi Trump, venant du DHS, des armes attachées à leur manteau, sont venues à Minneapolis pour faire respecter la loi, ou du moins, c'est ce qu'ils prétendent. Face à la fumée et aux balles en caoutchouc, dans la lumière naissante de l'aube, les citoyens se sont levés pour la justice, leur voix résonnant dans la nuit, et il y avait des empreintes de pas sanglantes là où la miséricorde aurait dû se tenir, et deux morts laissés pour morts dans les rues enneigées, Alex Pretty et René Good. Or, notre Minneapolis, j'entends ta voix, chantant à travers le brouillard sanglant, nous prendrons position pour cette terre et l'étranger parmi nous. Ici, dans notre maison, ils ont tué et erré dans l'hiver de 26. Nous nous souviendrons des noms de ceux qui sont morts dans les rues de Minneapolis. Les brutes fédérales de Trump ont tabassé son visage et sa poitrine, puis nous avons entendu les coups de feu, et Alex Preti gisait mort dans la neige. Il prétendait agir en légitime défense, monsieur. Ne croyez pas simplement vos yeux, c'est notre sang et nos os, c'est ses sifflets et téléphones contre les sales mensonges de Miller et Noem. Or, oh, notre Minneapolis, j'entends ta voix pleurant à travers le brouillard sanglant. Nous nous souviendrons des noms de ceux qui sont morts dans les rues de Minneapolis. Maintenant, ils disent qu'ils sont là pour faire respecter la loi, mais ils piétinent nos droits. Si votre peau est noire ou brune, mon ami, vous pouvez être interrogé ou expulsé à vue dans nos champs de ice. Dehors, maintenant, le cœur et l'homme de notre ville persistent à travers le verre brisé et les larmes sanglantes dans les rues de Minneapolis. Ô notre Minneapolis, j'entends ta voix, chantant à travers le brouillard sanglant, ici dans notre maison. Ils ont tué et erré dans l'hiver de 26. Nous prendrons position pour cette terre et l'étranger parmi nous. Nous nous souviendrons des noms de ceux qui sont morts dans les rues de Minneapolis. Nous nous souviendrons des noms de ceux qui sont morts dans les rues de Minneapolis. Ice dehors. Voilà. Donc, ça me semblait très intéressant de vous livrer cette donc traduction des paroles de la chanson de Bruce Springsteen. Et j'en profite quand même pour dire que ce qui se passe aux États-Unis depuis maintenant quelques semaines me semble, à titre personnel, de la plus grande importance. C'est la forme complètement exacerbée, ultime, de la discrimination, du racisme, du colonialisme et la mobilisation du peuple américain qui s'est traduit dans ces derniers jours par des dizaines, peut-être même des centaines de manifestations dans les grandes villes des États-Unis, dans tous les États, avec, on a entendu par exemple à Chicago, About Trump. Donc il y a un cran qui a été franchi. Nul ne sait jusqu'où ira cette mobilisation. Et je pense qu'il est important de suivre ça avec beaucoup, beaucoup d'attention. Les développements, on ne peut jamais prévoir jusqu'où ça va aller. Voilà. Donc je vous propose d'en rester là aujourd'hui donc pour cette chronique du groupe Fred Zeller. Vous retrouverez, comme d'habitude, sur notre site donc les liens pour retrouver, pour pouvoir écouter en podcast cette chronique, et puis également les liens avec les documents que j'ai pu utiliser pour cette chronique et quelques autres qui relèvent du même sujet et que je ne pouvais pas, dans le format de 30 minutes, donc vous citer. Voilà. Donc rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller, toujours sur Radio Libre en Périgord. Et merci à Antoine qui a assuré la technique pour cette chronique.
En forgeant un soc de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30.
Elle tient.